Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Se reconstruire après l'emprise, tel est le thème de cette série que je vous propose tout au long de la semaine. Et c'est surtout le titre d'un ouvrage. Je reçois son auteur que vous avez entendu, Marie Binet. Bonjour Marie Binet.
Bonjour Nathalie.
Alors c'est tout un programme sur le thème de votre livre, de votre ouvrage et au fond de votre activité professionnelle, puisque je rappelle que vous êtes conseillère familiale, sexologue, conférencière. Et ce n'est pas pour rien que vous avez fait le choix de prendre votre plume et de travailler pendant près de 8 ans cet ouvrage. Des victimes, vous en écoutez tous les jours.
Oui.
Des victimes d'emprise, vous en recevez dans votre cabinet.
Oui, parce que j'accompagne des personnes qui ont vécu cette emprise ou qui la vivent dans leur vie conjugale ou dans leur vie familiale avec leurs parents, leurs enfants. Ça peut être des personnes qui la vivent dans leur milieu professionnel et ça peut être des personnes qui l'ont vécu par des agressions sexuelles, parce qu'il y a eu des incestes, parce qu'il y a eu des violences intrafamiliales. Et en fait, on est sur plusieurs formes d'emprise et j'ai même eu des personnes qui ont vécu de l'emprise spirituelle.
Il y a toutes les formes d'emprise, hein, spirituelle, exactement, psychologique, physique, mensongère aussi.
Hein, oui, et même matérielle aujourd'hui. Et c'est matériel. Encore assez impressionnant de voir que même dans les couples, on est en 2024, il peut y avoir encore de l'emprise matérielle entre conjoints.
Alors ces couples, ces hommes et ces femmes qui viennent, je dirais, en consultation, quels sont un peu les profils? Est-ce que vous recevez des hommes, des femmes? Tout le monde est-il touché, femme comme homme?
On est, bien sûr, il y a une majorité de femmes qui sont concernées par l'emprise. Quand on va parler de tout le domaine de la sexualité, c'est essentiellement des femmes, bien sûr. Quand on va parler du domaine relationnel, il y a beaucoup d'hommes. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Et de plus en plus d'hommes font la démarche de venir. Alors, ils identifient très difficilement qu'ils sont sous emprise et c'est très compliqué pour eux de l'admettre.
Alors, vous l'expliquez comment?
Parce que les hommes, on leur a toujours dit qu'on ne pouvait pas être faible. On leur a dit que c'était eux les dominants. On leur a dit que c'était eux qui savaient, qui pouvaient prendre en charge. Et donc, ils ne peuvent pas imaginer qu'ils sont victimes de leur propre compagne ou de leur maman ou peut-être d'une collègue. Ça, c'est très, très compliqué de l'admettre. Ça déconstruit complètement l'image stéréotypée, traditionnelle, éducative, du masculin.
Et au fond, ça touche, je dirais, à l'identité, la masculinité, et ça affaiblit, ça fragilise l'homme.
Alors, c'est comme ça qu'ils le perçoivent. Après, quand ils comprennent que ça ne fragilise pas l'homme, et que c'est peut-être leur représentation qui contribue à, n'empêche qu'il y a cette étape à passer, et elle peut être compliquée. Ce qui fait que les hommes viennent souvent très très tardivement dans mon cabinet pour parler de cette situation, alors que les femmes viendraient beaucoup plus rapidement, parce qu'elles cherchent à protéger leurs enfants. Elles ont leur maternité souvent qui les aide beaucoup à faire la démarche plus rapidement et à admettre qu'en effet, elles ont une fragilité affective qui fait qu'elles contribuent plus ou moins, etc. Ou elles ont peur de perdre matériellement. Enfin, il y a plusieurs signes qui les aident à venir plus facilement.
Alors, quels sont les signes de ces profils masculins que vous pouvez recevoir en cabinet, des profils d'hommes qui sont au fond tombés sous emprise?
Alors, des hommes qui sont... Alors, je veux dire, c'est à peu près le même profil que ceux des femmes, hein, on va être clair.
C'est un peu identique.
C'est un peu identique, mais en tout cas, ce sont des hommes très intelligents, qui sont souvent romantiques, assez fusionnels, qui ont une demande affective forte, qui sont prêts à tout pour leur conjointe ou qui sont prêts à tout pour leur travail. Donc, qui se donnent beaucoup, qui s'oublient facilement et qui sont prêts aussi, qui ont un lien très affectif avec leurs enfants. Ils sont proches de leurs enfants, ils ont une grande complicité. Ce sont des hommes qui ont une forte sensibilité, même s'ils l'expriment peu, ils parlent peu. Donc, ils ont souvent tué ce qu'ils ressentaient. Et ils finissent par avoir à l'intérieur une colère qui, chez certains d'entre eux, va exploser. Et donc, ça va se retourner contre eux parce qu'ils vont avoir des manifestations de violence. Et ils vont trouver ça particulièrement injuste d'être accusés alors qu'ils ont été poussés à bout. Mais en fait, on ne peut pas les entendre là-dessus parce que ce sont des hommes. Et on est dans une société qui, de toute façon, décide que c'est obligatoirement l'homme qui est un agresseur et jamais la femme. Sauf qu'il y a des situations conjugales ou familiales dans lesquelles l'homme, oui, devient agresseur et on ne peut que condamner ça. sauf qu'il a été poussé à bout et donc l'agression féminine n'est pas entendue ou reconnue. Et ça, c'est très complexe pour les hommes, c'est pour ça qu'ils ont aussi du mal à faire la démarche de venir voir quelqu'un, parce qu'ils pensent qu'on ne va pas les croire. Ils vont peu aller voir les gendarmes, par exemple. Il y a des hommes qui vivent des violences physiques intraconjugales, et j'en ai eu dans mon cabinet, ils n'osent pas aller porter plainte. Ils disent « de toute façon, on ne va pas me croire ». Donc il y a aussi toute cette réalité qui est complexe pour les hommes. Ils ont peur de perdre la garde de leurs enfants. Donc pareil, ils ne vont pas se plaindre à cause de ça. Parce qu'on reste avec cette majorité de garde qui est exclusivement donnée aux femmes. Surtout dans des situations comme ça, on va plus croire la femme. Et donc du coup, il y a des peurs aussi qui sont présentes, qui font que les hommes ont plus de mal à faire la démarche et à dire bah, « ça va pas, je vis quelque chose d'affreux ». Et puis, je vois bien que quand les hommes font la démarche, ils s'écroulent. Et pour eux, c'est dramatique de s'écrouler. C'est inenvisageable. Et vous savez qu'un homme aime bien avoir des solutions pour vite passer à l'action. Et comprendre, accepter qu'il va lui falloir du temps et qu'il n'y a pas de solution toute faite, qu'il va lui falloir du temps pour remonter, c'est très difficile à accepter.
Donc aujourd'hui, on peut entendre que vous recevez en consultation des hommes qui s'écroulent.
Oui, exactement. Et qui font un travail merveilleux. J'ai eu des hommes qui ont fait un travail de reconstruction comme des
donc
femmes.
Donc des hommes qui se sont relevés.
Et complètement. Voilà, simplement, il leur faut l'admettre.
Donc ça demande du temps.
Ouais, et c'est plus compliqué pour eux que pour une femme.
Alors, si certains auditeurs, hommes tout comme femmes, se reconnaissent peut-être en vous écoutant, Marie Binet, aujourd'hui dans ce rendez-vous des clés pour vivre, et ont des sonnettes d'alarme et se reconnaissent au fond ou victimes, comment réagir? Consulter tout de suite un professionnel?
Le plus rapidement possible. Consulter.
Il n'est jamais trop tard, c'est ce qu'on.
Il n'est jamais trop tard. Vous savez, j'ai des personnes que j'accueille dans mon cabinet qui sont sous emprise depuis 30 ans. Hein. Donc, il n'est jamais trop tard.
Qu'est-ce qui donne le déclic d'une personne sous emprise depuis 30 ans de consulter 30 ans après?
Alors, quelquefois, je pense à une de mes patientes, elle a fini par s'en rendre compte parce que c'est au moment où les enfants sont partis du domicile, en fait. Tant qu'il y avait les enfants, elle tenait le coup, elle avait une bonne motivation à tenir, et puis elle ne voyait pas tout.
À tenir.
Voilà, et puis bah, une fois que les enfants sont plus là, là, ça devient assez insupportable. Il peut y avoir un aveuglement parce que quand on a vécu une emprise enfant et qu'on continue... avec une autre emprise adulte, bah en fait, on est dans son schéma naturel. Donc, on ne s'aperçoit pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, quelquefois, c'est quelqu'un d'autre qui va dire « Mais attends, là, ce que tu vis, ça me surprend, je ne comprends pas les comportements. » Et du coup, il peut y avoir une alerte. Et puis, quelquefois, c'est un thérapeute qui va dire « Écoutez, là, ce que vous me dites... » Le thérapeute va questionner la situation. Et ça m'est arrivé. Hein,
ce de que dire, vous faites, vous voilà. Questionnez votre client.
Voilà, moi, ça m'est arrivé de dire « Écoutez, là, vous vivez une situation d'emprise. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez en faire ?» Et là, c'est la personne qui chemine et qui décide de rester, de quitter. Quelquefois, on peut voir le conjoint ou la conjointe et il peut y avoir un travail qui est fait. Mais en tout cas, voilà, ça peut être des alertes qui viennent de l'extérieur.
Donc d'amis.
Même d'amis, ça peut être quelqu'un de la famille. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de prise de parti, hein, parce que le but, ce n'est pas de dire à l'autre « Oui, ton conjoint est comme si, parce qu'en fait, on en veut au conjoint, on est contre le conjoint. » Ça, non. C'est plus pour essayer de permettre à la personne de se sortir d'une situation de mal-être qui l'enferme et qui l'empêche d'être pleinement elle-même.
Alors, dans votre livre « Se reconstruire après l'emprise », ce livre est parsemé aussi de quelques témoignages. Pourquoi le choix d'intégrer aussi des témoignages de personnes que vous avez accompagnées vous-même en consultation?
Alors déjà, je remercie mes patients.
De très beaux témoignages, voilà. Pour ceux qui se deviendront lecteurs.
Tout à fait.
Et je conseille votre ouvrage.
Ouais. Je remercie mes patients d'avoir accepté de témoigner parce que c'est pas si facile que ça. Qu'ensuite, ce sont des témoignages qui reflètent la vie réelle des victimes et qui permet de parler de différentes formes de manipulation avec des auteurs aussi différents dans leur comportement. Et pourquoi des témoignages? Parce qu'il y a un moment donné, faire de la théorie, ça ne sert pas à grand-chose, surtout dans ce thème. Donc, bien sûr, dans le livre, il y a de la théorie pour permettre de comprendre les mécanismes.
Vous donnez un peu tous les
outils.
Et
je donne des pistes. Maintenant, la vraie vie, elle existe. Et qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Comment on s'en sort? Autant que des personnes disent ce qui s'est passé pour elles, je pense que ça a beaucoup plus de force et de vérité.
Merci infiniment. Se reconstruire en Après l'emprise, c'est un livre que je conseille. Il donne, je dirais, ses outils pour apprendre à discerner si on est sous emprise ou si on n'est pas sous emprise, et si on est victime et si on voudrait rester ou sortir de cet état victimaire. Marie Binet, je vous retrouve demain à cette même place pour ce même sujet. Merci.
Au revoir.